cours de philosophie éthique par le Père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeudard, le 22 février 96.
Ce que le philosophe considérant.
Idéologie athée. Et il verra et il voit que toutes ces idées
elle n'existe pas dans la philosophie de l'Inde, dans la philosophie orientale, où le christianisme a moins pénétré. Parce que de fait, le christianisme, tout de suite, s'est porté à Rome et s'est développé avec l'Empire romain. C'est l'Occident. Et aujourd'hui, comme l'Occident s'est révolté contre le Christ, désirant supprimer l'Église, il faut pas se leurrer. Les idéologies athées continuent d'une façon peut-être plus invisible, sous une forme moins violente, bien que de temps en temps, il y a des accès de violence. Mais il y a un désir de supprimer l'Église comme communauté, comme une communauté humaine se manifestant comme disciple du Christ. On voudrait qu'au point de vue communautaire, il y ait un libéralisme absolu et qu'il n'y ait plus cette attitude religieuse. Rendre l'homme à lui-même est responsable de lui-même et non plus dépendant d'un être supérieur, dépendant d'un sauveur. Dans ce climat, il est nécessaire que le philosophe qui cherche la vérité regarde en philosophe ce qu'est la personne du Christ et ce qu'il enseigne aux hommes. C'est ça que j'appelle une éthique chrétienne. C'est-à-dire ce que le philosophe peut dire du Christ et de ses disciples. Au terme, on verra l'Église. Je regarde d'abord la personne, parce que le philosophe est attentif en premier lieu à la personne, et que les chrétiens, dans la mesure même où ils sont chrétiens, sont en référence avec Jésus, sont en référence à un homme, et non pas premièrement une doctrine. La dénomination de chrétien s'est faite à Antioche pour déterminer ceux qui suivaient Jésus. Suivre le Christ, c'est ce que dit Jésus, ses premiers disciples. Suis-moi. Jésus ne dit pas, tu liras tel livre, tu me diras si tu es d'accord. Tu verras telle doctrine philosophique, Aristote ou Platon, ou les stoïciens, ou Plotin. J'accepte tout ça. Puis tu me diras si tu es d'accord. C'est pas ça du tout. C'est pas une école philosophique. C'est une personne à laquelle on est attaché par une alliance d'ordre divine dans la foi, l'espérance et la charité. Et la première chose, puisque c'est une relation à une personne, la première chose qu'il faut regarder, c'est que cette personne a accepté de mourir d'une manière violente, comme étant rejetée et considérée comme esclave, rejetée de tous, mort sur la croix. et en mourant sur la croix, donne à ses disciples un sens nouveau de la mort. C'est ce que nous avons essayé de voir. Parce que la mort du Christ est liée à sa résurrection. Pour le chrétien, on ne s'arrête pas à la croix. La croix est liée nécessairement à la résurrection. Et donc on ne peut pas s'arrêter à la croix. C'est à travers la croix qu'on atteint la résurrection. C'est à travers la croix, le mystère de la mort du crucifié, qu'on atteint la plénitude de grâce, de foi, d'espérance et d'amour. Ceci, c'est capital. Et le philosophe peut constater ça. Si les croyants y laissaient dans une réflexion philosophique, de comprendre qu'est-ce qui caractérise l'éthique chrétienne. Qu'est-ce qu'il y a de tout à fait particulier ? Et d'une certaine manière, ce n'est plus une éthique, puisque tout repose sur un don gratuit, alors que l'éthique repose sur la volonté humaine. Et la responsabilité humaine. Le chrétien n'est pas responsable de la grâce qu'il reçoit. Voyez dans quel sens je le dis, il ne l'a pas mérité. Il est responsable de l'usage qu'il en fait. Parce que la grâce ne supprime pas la responsabilité humaine, ne supprime pas l'éthique humaine, mais lui donne un nouveau développement. C'est pour ça que d'une certaine manière, ce n'est plus une éthique. C'est une théologie. C'est une sagesse. Ce sera encore mieux de dire ça. C'est une sagesse. La vie chrétienne est premièrement une sagesse. Et cette sagesse assume l'éthique humaine. Il faut donc regarder en premier lieu ce qu'est cette sagesse. C'est la sagesse de la croix. Jésus se sert de la mort pour donner la vie. Jésus se sert de la croix pour manifester son amour et le réaliser. Ça qui a de si merveilleux et d'unique. Socrate s'est bien servi de la mort pour montrer sa fidélité. Jésus se sert de la mort pour montrer son amour à l'égard du Père et à l'égard des hommes. Et il fait de sa mort un sacrement de salut. Puisque c'est par sa mort qu'il nous sauve. Et donc là, une dimension très unique au point de vue éthique. Et comme c'est une dimension très unique au point de vue éthique, transformation de l'homme, transformation radicale de l'homme. Il n'est plus seulement homme, il est fils de Dieu. Et là on touche, voyez, quelque chose qui va très loin et qui est très fort. On sait qu'en devenant chrétien, on ne perd rien de ce qu'il y a d'humain et d'authentiquement humain. Mais on accepte donné gratuitement à travers les mérites de Jésus à la croix, nous met dans une situation toute nouvelle à l'égard de Dieu. On passe d'un état de pécheur à un état d'enfant de Dieu. Et cela, le chrétien en a la conviction la plus profonde. Il en est certain. C'est sa vie de chrétien. Et cette transformation se fait tous les jours et de plus en plus profonde. Vous voyez, c'est vraiment ce que les premiers chrétiens avaient très très fort le sens de cela, cette conversion. Le chrétien est un converti, et tout chrétien est un converti. C'est-à-dire qu'il passe de l'état de pécheur, psaume 50, qu'il faudrait citer, psaume 50, il assume ça pleinement. Et il le proclame. Il passe de l'état de pécheur à l'état de fils de Dieu, d'ami du Christ. Et comme lui est le fils bien-aimé du Père, avec lui nous devenons fils bien-aimés du Père. C'est une métanoïa complète, la vie chrétienne. Et cependant, extérieurement, visiblement, rien n'est changé. On reste dans le monde. On ne devient pas plus intelligent parce qu'on est chrétien. Il y a des chrétiens remarquablement intelligents, heureusement. Mais il y a des chrétiens beaucoup moins intelligents. Ils resteront toujours beaucoup moins intelligents. Peut-être que la vie chrétienne les empêcheront de dire de grosses bêtises. Peut-être, pas toujours. Il y a des chrétiens qui disent de grosses bêtises. Au plan politique, au plan humain. C'est extraordinaire de voir que la transformation est une transformation intérieure. Et l'évangile du début du carême le dit avec force. Oui, c'est le passage d'une éthique religieuse, c'est vrai, à l'éthique chrétienne. Et on pourrait se servir de cet évangile qui est très fort, puisque ça touche la miséricorde, la prière. Le jeûne. Trois grands aspects. Le jeûne, c'est qu'est-ce que nous faisons de notre corps. La prière, qu'est-ce que nous faisons de notre intelligence et de notre cœur. Et notre regard vis-à-vis des autres. Il y a un changement d'intériorité complet. On ne met plus l'accent sur les mêmes problèmes. Donc il y a un horizon humain complètement changé. Et cet horizon humain complètement changé se fait dans la lumière même de Jésus. C'est Jésus qui le demande, c'est Jésus qui le proclame. Et je crois qu'il faut progressivement, dans cette recherche que nous faisons, comprendre combien Jésus ne cache pas la nouveauté de ce qu'il fait. Et une nouveauté qui prend toute sa signification à la croix. En face de la croix, on est obligé d'opter. Et la croix peut paraître, pour le philosophe, et l'homme religieux. Scandale et folie. Pour le grec et le gentil. Et donc pour l'homme philosophe et l'homme religieux. Et Jésus en est parfaitement conscient de cela. Qu'il y a quelque chose dans la vie chrétienne qui, vu de l'intérieur, et sagesse, vu de l'extérieur, peut sembler folie et scandale. Et c'est quelque chose de congénital à la vie chrétienne. C'est pas quelque chose de passager, c'est quelque chose de congénital à la vie chrétienne. La grâce que le Christ nous donne fait cette transformation complète dans l'homme. Si l'homme accepte vraiment d'être totalement chrétien, d'aller jusqu'au bout des exigences de son christianisme, que Jésus donne pour comprendre ce passage de l'éthique humaine, religieuse, à l'éthique chrétienne, qui vient d'en haut. L'éthique humaine vient d'en bas, c'est l'homme qui recherche à être parfait, à être bienheureux. C'est haine présuppose la vie et ne la donne pas. L'éthique religieuse comprend que celui que nous adorons est notre sauveur, mais notre sauveur, notre créateur plus exactement, notre Père, qui nous donne une vie, nous laissant la liberté de choisir. Les idéologies athées philosophie européenne. L'Europe chrétienne donne naissance aux idéologies athées. Elle est passée de ce lien avec l'Église catholique, avec la culture chrétienne, qui est sa culture, à une opposition violente et une destruction de tout ce qu'avait pu être précédemment. Alliance avec le Christ, alliance avec Dieu. Et après ce grand cataclysme de ces idéologies athées, il y a un certain moment de calme.
Philosophe et que le théologien
demander comment les béatitudes évangéliques sont la charte de la vie chrétienne, de l'éthique chrétienne. Premièrement, la béatitude des pauvres. La béatitude des pauvres. Bienheureux les pauvres en esprit, qui, selon saint Augustin, selon Thomas d'Aquin, selon une grande tradition théologique, la béatitude des pauvres qui est le fruit du don de crainte au plus intime de notre cœur et de notre intelligence. La béatitude des pauvres nous montre ce qui caractérise cette éthique, cette vie nouvelle, qui est une vie substantielle d'amour pour Dieu et le prochain, et que l'amour divin pour s'enraciner dans le cœur de l'homme et dans la volonté humaine ne peut le faire que par la pauvreté. C'est la première grande révélation de cela. La grâce est beaucoup plus qu'une greffe. Elle est un lien direct avec la plénitude de grâce qui est dans le cœur de Jésus et qui fait que Jésus, parce qu'il est Dieu, par le mystère de l'union hypostatique, et l'homme parfait, l'homme entièrement transformé par la grâce et par la plénitude de grâce, et que cet homme parfait, complètement transformé par la béatitude, par la grâce divine, doit accepter au plus intime de lui-même d'être le pauvre par excellence, et que toutes les autres pauvretés sont relatives à celle-là. Il est l'homme par excellence. Jésus a le droit de dire, et l'Évangile le dit pour lui, regardez-moi, je suis l'homme nouveau. Et il est modèle pour nous. Et il est plus que modèle, il est ce qui finalise toute notre vie chrétienne. Et cet homme nouveau apparaît comme le pauvre par excellence. Et il y a là une sorte de contradiction inhérente à toute vie chrétienne. Contradiction apparente à toute vie chrétienne. S'il est l'homme par excellence, comment peut-il être le pauvre par excellence ? Il peut l'être parce que laissé toute la place à cette vie nouvelle qu'est la vie du Fils bien-aimé. La Fils bien-aimé du Père et la vie... qu'est la vie bien-aimée du Fils bien-aimé du Père et du Fils bien-aimé de Marie. Il faut qu'il accepte de disparaître pour tout recevoir. Lorsque Dieu se donne substantiellement, personnellement, comme pour Jésus, il faut que Jésus, dans son humanité, accepte la totale pauvreté. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Père qui vit.